Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis Delafontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Et son absence au travail ce jour-là ? Le policier Nedilko sait bien que l'argument se démonte aussi facilement.
Donc on aura dit oui dire, on nous dira simplement qu'il n'aimait pas se lever le matin et puis qu'il n'était pas très assidu à son travail. Ok, j'en fais pas un meurtrier entre nous. Hein.
Son séjour en Suisse, il a le droit d'y aller.
Il a son enfant et sa compagne qui sont au Creusot et il va revenir tous les week-ends pour les voir. Il suit bien à leurs besoins. On peut le loger extrêmement facilement. Il est parti simplement travailler. Et la preuve, c'est qu'il va revenir en 1989. Or, si je commets un meurtre et que je veuille me faire oublier, je vais pas revenir au bout de 2 ans. Et pourtant, il revient.
Quant à sa coupe de cheveux, tous les jeunes de l'époque avaient la même. Et puis, le signalement du facteur...
Alors, le facteur... Bon, le facteur, il décrit un garçon qui court, qui est au moins aussi grand que lui, 1m80, donc qui est grand, et qui a les cheveux clairs, voire blonds. Eh bien, Jean-Pierre Murat, il est brun. Et sa taille, c'est une petite taille, c'est 1m70. Ce témoignage, il ne permet pas de dire « c'est Jean-Pierre Murat ». Pas du tout. Et moi, je dis au contraire. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui.
Si Nedilko veut coincer Murat, il va falloir creuser davantage. Et l'occasion se présente le 19 mai 2011. Il obtient enfin le feu vert des médecins pour l'interroger. Mais en audition libre, pas en garde à vue.
Jean-Pierre Murat est stabilisé. Mais on nous fait bien comprendre au niveau du corps médical qu'il demeure dangereux. Qu'il y a un risque de passage à l'acte soudain, brutal, dont on doit être protégé. Et il est hors de question pour moi de l'entendre en qualité de mise en cause.
La stratégie de Raphaël Nedilko est donc de laisser Jean-Pierre Murat parler librement, sans le brusquer.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Tout de suite d'entrée de jeu, il me dit de toute façon, je n'ai rien à voir avec le meurtre de cette petite fille. Il affirme qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait même pas à quoi elle pouvait ressembler. Et je me souviens qu'au moment de replier mon ordinateur, l'audition était pratiquement terminée, Jean-Pierre Murat me livre deux informations extrêmement importantes. La première, c'est qu'il se situe lui-même à la Charmille le jour du meurtre. Jean-Pierre Murat met le doigt dans le grenage. Il se trahit. Lui-même se fixe physiquement dans le quartier de la Charmille, à proximité immédiate du domicile de Christelle Maïri le jour du meurtre.
Un faux pas inespéré. Et Murat en fait un deuxième.
Il accuse deux personnes d'avoir échangé un couteau à cran d'arrêt après le meurtre. Couteau à cran d'arrêt dont la longueur pourrait correspondre à l'arme du crime. Ce qui est d'autant plus inquiétant parce que Jean-Pierre Murat n'est pas censé savoir quoi que ce soit. Lui-même l'a affirmé. Il ne sait rien sur le meurtre de Christelle Maïri, y compris l'arme qui aurait été utilisée.
Quand le policier quitte Murat, sa conviction s'est encore renforcée. D'autant plus que tous ceux qui connaissent le suspect lui ont aussi parlé d'une vraie passion pour les couteaux.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Jean-Pierre Murat était depuis très jeune obsédé par les couteaux. À tel point qu'il allait même chercher certains couteaux dans les poubelles parce qu'ils représentaient un objet important pour lui. Il faisait la collection de ses couteaux. Ses anciennes compagnes ont été entendues et ont toutes dit qu'il avait des couteaux, des crans d'arrêt, qu'il ne sortait jamais sans un couteau. Et que cette adoration ne l'a jamais quitté.
Docteur Gérald Alloy, expert psychiatre.
C'est très fréquent qu'un certain nombre de schizophrènes en plein délire de persécution portent une arme et notamment des couteaux pour essayer de se protéger puisqu'ils pensent qu'ils vont être attaqués par des martiens, par des gens qui leur veulent du mal, etc.
Trois semaines après l'audition de Murat, les policiers perquisitionnent chez lui. Et la pêche est bonne.
On découvre une quantité assez impressionnante de couteaux qui sont collectionnés à la fois par Jean-Pierre Murat et par son père. On retrouve de ces couteaux absolument partout, dans les tiroirs des commodes, dans les tables de nuit, dans les meubles de cuisine, dans les placards. On trouve des couteaux dans le box réservé à Jean-Pierre Murat, notamment un couteau dépourvu de manche, un couteau de cuisine, qui est très grossièrement affûté à la meule. Cette lame de couteau dépourvue de manche, la façon dont elle est affûtée, elle me fait immédiatement penser au couteau découvert peu après le meurtre dont on pense qu'il pourrait être l'arme du crime.
Les couteaux saisis chez Murat sont bien sûr envoyés à un expert pour être comparés à celui qui a été retrouvé tout près de la scène de crime. Mmh. Le problème, c'est que ce couteau-là a été détruit et qu'il ne reste qu'une photo.
Oui, alors c'est une première en France, ça ne s'était jamais fait et à ma connaissance, ça n'a jamais été reproduit. Le juge va demander de comparer les couteaux Murat à ça, à cette photo de mauvaise qualité qui est la photo du couteau retrouvé près de la scène de crime. Et en préambule, l'expert va dire que la disparition du couteau original est un obstacle majeur. Ça ne va pas être facile pour lui de travailler à partir de ce document. Mais ça se tente.
Ok, ça se tente, mais est-ce que ça marche?
Oui, ça va marcher parce que l'expert met en évidence sur les lames des stigmates d'affûtage. Ce sont des cicatrices qui sont laissées par l'outil d'affûtage, par la pierre, par la meule. Un bon rémouleur ne va aiguiser que le fil du couteau et ne laissera aucune marque sur les côtés de la lame. Là, ce n'est pas le cas.
Et est-ce qu'on retrouve ces traces sur la photo du couteau retrouvé dans les buissons?
Oui, on les retrouve. L'expert en observe quatre stigmates d'affûtage dont il dit qu'ils sont en totale similitude avec les marques d'affûtage des couteaux saisis chez Jean-Pierre Murat. Écoutez bien sa conclusion. Cela tente à prouver que le couteau découvert en 1987 et ceux saisis chez Murat sont passés entre les mains du ou des mêmes propriétaires. En clair, le couteau retrouvé près de la scène de crime serait celui de
Jean-Pierre Murat.
Oui.
Et la conséquence, eh bien, c'est que Murat, le 13 décembre 2011, est placé en garde à vue. Nous sommes 25 ans après le crime.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Il est très calme, très détendu, très confiant. Pour lui, il est sur la même ligne de défense, il n'a rien à voir dans ce meurtre et il est convaincu qu'on n'a absolument aucun élément à charge contre lui.
Tellement confiant, Murat, qu'il refuse même la présence d'un avocat. Sauf que cette fois-ci, Raphaël Nedilko passe à l'attaque. Murat dément connaître Christelle. Mais alors pourquoi disait-il le contraire quand il rendait visite aux policiers du Creusot en 2000?
Je lui ai montré son audition. Et sa réaction a été de me traiter de menteur, que jamais il n'avait dit une chose pareille et il a préféré garder le silence.
Et le couteau retrouvé dans le buisson, le couteau à cran d'arrêt. Son ancienne compagne et son frère le disent tous les deux, Jean-Pierre Murat avait le même.
Jean-Pierre Murat dira que non, qu'il n'a jamais eu un couteau de ce type-là. Il dira que ce n'est pas affûté, c'est carrément raboté, que lui, c'est un spécialiste et qu'on n'affûtera jamais un couteau comme celui-là. Pour autant, l'expertise montrait qu'il était capable d'affûter un couteau d'une manière aussi médiocre que celle-là.
Sur sa dégaine à la Renault, la ressemblance avec le signalement du facteur, sur ses confidences à Michel, toujours la même réponse. Non. Toujours non.
J'ai longtemps pensé, pendant la garde à vue, qu'avec la charge des éléments que je lui opposais, il allait finir par craquer. Je pense qu'une personne normale, avec un tel faisceau concordant, aurait déposé les armes et aurait fini par avouer. Mais pas Jean-Pierre Murat. Non.
Le policier devra faire sans aveu. Mais il peut toujours compter sur Murat pour commettre un faux pas.
Il me dit, mais vous savez, la scène de crime, je connais. Environ une dizaine d'années après le meurtre, j'ai été pris d'une envie d'aller voir s'il restait des traces de sang. Et là, il urine. Non pas contre un mur, n'importe où dans la cave, non précisément à l'endroit même où il affirme que le corps était, à l'endroit même où il affirme chercher des traces de sang.
Et l'emplacement exact du corps dans la cave, personne ne le connaît, à part les enquêteurs et le meurtrier.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Pourquoi éprouve-t-il le besoin de retourner lui-même sur les lieux du crime pour rechercher quels indices, pour y faire quoi, pour se rendre compte de quoi? Cela vient confirmer qu'il a sans doute un rôle direct dans la mort de Christelle Maïri.
Depuis le début, c'est comme ça. Il parle et il se trahit.
À l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre Murat est présenté au juge d'instruction. 25 ans après la mort de Christelle Maïri, l'enquête connaît enfin une mise en examen.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
J'ai demandé comme faveur au juge d'instruction de pouvoir prévenir Marie Pichon, la maman de Christelle. J'aurais laissé personne d'autre que moi lui annoncer cette nouvelle. Personne. Je lui ai dit, je sais bien que je ne vous l'ai pas promis, mais je crois bien qu'on touche le bout du tunnel. Enfin, on a quelqu'un de mis en examen dans votre dossier. Peut-être qu'on aura enfin la vérité.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
Raphaël qui me dit, ça y est, il a arrêté M. Murat en l'argent. Rien, j'y croyais même pas, c'est pas possible. J'étais toute seule là sur le canapé, quand on regardait la télé. J'étais abattue, voilà. C'est presque comme le premier jour quand Christelle est décédée. Plus rien. Je ne croyais plus. Pratiquement 25 ans d'attente. Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attente.
Murat a bonié le crime. Le juge veut vérifier sa connaissance des caves de la Charmille. Et surtout, il veut comprendre ce qu'il est venu faire dans cette cave 10 ans après le crime. Pour ça, rien de tel qu'un transport sur les lieux. Alors direction le Creusot.
Et ce 26 octobre 2012, le juge d'instruction ne va pas être déçu. Murat nie toujours le meurtre, oui. Mais quand le magistrat lui demande de désigner l'endroit où il est retourné chercher des traces de sang 10 ans après, bingo.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Jean-Pierre Murat a montré exactement l'endroit où avait été retrouvé le corps de Christelle Maïri. Symboliquement, c'est très fort et c'est quasiment un aveu.
Eh bien, pas du tout, répond l'avocat de Murat. Car depuis sa garde à vue, il a eu le temps de consulter le dossier.
Dans le dossier, on a les photographies de, jugées d'ailleurs ici, de la jeune fille, lorsqu'elle est allongée le long du mur, avec le vélo qui est derrière. Et donc, ensemble, on a regardé le dossier. Bien sûr qu'on l'a regardé. Alors après, bien sûr qu'il va faire le cheminement et il va dire où est le corps. Il l'a vu sur la photo. Il l'a vu.
Mais dans ce cas, pourquoi Murat a-t-il uriné à cet endroit précis 10 ans après le meurtre. Il n'avait pas le dossier, là.
Deux explications. Soit une forme de mépris, j'irais uriner sur vos tombes, ou alors, pour pouvoir justifier la présence de son ADN, du fait qu'il a justement uriné sur la scène de crime.
Pour vérifier cette hypothèse, le policier demande à un collègue d'effectuer des prélèvements ADN à l'endroit même où Murat a uriné. Une stratégie destinée à le faire réagir.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Jean-Pierre Murat a une réaction extrêmement nerveuse. C'était très palpable chez lui au moment où cet écouvillonnage a eu lieu.
Maître Corinne Herman, avocate
de Marie
Pichon.
Comme s'il était scandalisé et comme si en même temps il se disait mais voilà, ils vont trouver mon ADN, quoi.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on l'innocente. C'est tout. Donc c'est pourquoi il est inquiet, parce qu'il se dit qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir ?
Depuis l'entrée de la cave, une femme n'a rien perdu de la scène. C'est Marie Pichon.
Là, ce qui me passe par la tête, c'est bon, c'est lui. C'est déjà une, pour moi, c'était déjà une preuve. C'était lui.
Et la conviction de Marie se confirme à l'extérieur de la cave. Car Murat va commettre une nouvelle bourde en descendant le chemin de la Charmille.
Il s'arrête vraiment à l'endroit où l'arme a été retrouvée, c'est-à-dire à hauteur du buisson où l'arme est retrouvée. Or, on ne lui dit pas de s'arrêter. Pour nous, il n'y a que l'auteur des faits qui peut s'arrêter à l'endroit où il a jeté l'arme.
Gaffe sur gaffe. Et Murat, dont ce n'est décidément pas le jour, va continuer et montrer qu'il sait vraiment beaucoup de choses. Au pied de l'immeuble de Christelle, le juge l'interroge. Il habitait où, le copain que vous veniez voir tous les jours à l'époque du meurtre ?
Et là, encore une fois, Jean-Pierre Murat se prend les pieds dans le tapis. Il dit, mais à tel étage, juste au-dessus de celui de la jeune fille. Chose qu'il n'était pas censé connaître, encore une fois.
L'instruction se termine. Il est temps de renvoyer Murat devant les juges, mais reste à savoir s'il est accessible à une sanction pénale. Parce que Murat, il en a fait des séjours en HP.
Ouais. Alors c'est vrai que la question se pose, mais il n'y a pas vraiment eu de débat, parce que Murat a été examiné par un éminent psychiatre qui s'appelle le docteur Zaguri. Et Zaguri n'a pas tenu compte seulement des entretiens qu'il avait eus avec Murat, il a tenu compte de toute sa vie, de tout son passé psychiatrique. Et voilà ce que note l'expert. Les premiers symptômes psychotiques francs de sa maladie sont apparus début 89, soit plus de 2 ans après le meurtre de Christelle Maïri. Alors pour l'expert, les troubles ne semblent pas contemporains ou concomitants aux faits. Et en droit, ce qui compte, c'est l'état de santé mentale au moment des faits, au moment du passage à l'acte. Le docteur Zaguri considère que si le discernement de Murat n'est pas aboli au sens de l'article 122 du Code pénal, il peut toutefois être altéré. Et si son discernement est altéré, l'expert écrit, Murat n'est que relativement accessible à une sanction pénale.
Oui, mais accessible tout de même.
Oui.
Il est donc renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Et son procès s'ouvre le 10 juin 2015.
Un procès aussi longtemps après les faits, c'est rarissime. La presse est donc au rendez-vous.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
C'est un aboutissement. Hein, depuis 28 ans et demi que ma fille est décédée, c'est vrai que c'est un aboutissement pour moi, pour la famille, les amis et pour l'association.
Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon, et fondatrice de l'association Christelle.
Il fallait être présent pour soutenir Marie. Toute cette énergie qu'on avait dû déployer pour en arriver là, donc il fallait vraiment y être, hein, jusqu'au bout.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
L'enjeu, c'est de démontrer qu'un cold case, même quand on n'a pas d'ADN, même quand on n'a pas l'arme du crime, eh bien on peut le résoudre 30 ans après.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
L'enjeu, c'est l'acquittement, c'est sûr. Hein, et je dois l'obtenir, cet acquittement.
On se bat. Hein.
Ouais.
On se bat.
Ouais.
je voulais trop qu'ils disent, ben oui, c'est moi qui l'a fait, puis qu'ils me disent pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a été arrêté, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça.
Mais les questions de Marie restent sans réponse. Car Murat garde la même ligne. Il n'est pour rien dans le meurtre de sa fille. Alors, les débats s'animent autour des éléments matériels, et notamment le couteau retrouvé dans le buisson.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
On va dire, ça a pu être son couteau. Mais est-ce qu'il a tué avec? Alors ça, on ne le démontre pas, hein, on ne le sait pas.
Et l'expertise du couteau? Pour la défense, elle ne démontre rien non plus.
Comment peut-on arriver à des conclusions à partir d'un couteau simplement sur une image? L'image d'un couteau. L'image d'un couteau, c'est pas le couteau. Parce que l'image d'un couteau, elle peut être modifiée ne serait-ce que par le papier. Donc moi je dis non.
L'avocat marque un point. Mais il n'est pas aidé par le comportement de son client. Murat peut aussi montrer un visage plus inquiétant que celui de l'homme tranquille qu'il donne à voir depuis le début du procès.
Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon.
Jean-Pierre Murat va à un moment donné péter un câble à l'égard d'une témoin, l'insulter, s'en prendre violemment à elle. Et puis finalement, quand je lui pose la question « Est-ce que c'est vous ?» et que je lui repose avec insistance, il va m'envoyer paître violemment.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
C'était un élément supplémentaire pour indiquer que Jean-Pierre Murat pouvait se montrer très, très violent et avoir un passage à l'acte très facile.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
Je sens bien qu'en regardant les jurés, ça les a marqués.
Un point pour l'accusation. Dans son réquisitoire, l'avocat général rappelle d'ailleurs les violences récurrentes de Murat et le chapelet d'indices à charge contre lui. Son absence d'alibi, ses aveux à Michel, son obsession pour le meurtre, sa technique d'affûtage des couteaux et sa connaissance de la scène de crime. Tout rapproche Murat du meurtre. Rien ne l'en écarte.
Christophe Rode, procureur de la République de Chalon-sur-Saône de 2009 à 2016.
Tous ces indices, lorsqu'ils sont mis bout à bout, constituent un véritable portrait du coupable. Et le portrait, c'est celui de Jean-Pierre Murat.
Le magistrat requiert 20 ans de prison. Une peine qui tient compte de l'altération du discernement de Murat au moment des faits. La défense, elle, va tenter d'arracher l'acquittement.
Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat.
J'ai dit aux jurés, mais si c'était un de vos enfants, de vos pères, vos frères, qui soit ici, avec simplement les charges qu'on retient contre Jean-Pierre Murat, est-ce que vous ne crieriez pas au scandale s'il était condamné? Parce que c'était ça le problème. On n'a pas le droit de condamner un homme avec aussi peu d'éléments.
Les jurés de Saône-et-Loire auront un avis différent. Après 3h30 de délibéré, il condamne Jean-Pierre Murat à 20 ans de réclusion criminelle. La fin d'un long combat pour Marie Pichon et ses proches.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
On a gagné, tous gagnés ensemble. Je ne suis pas la seule, hein. Il faut bien penser que je ne suis pas toute seule.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Et moi, je peux vous dire que de l'intérieur, ça a été de longues années de ténèbres. Et enfin, une sortie du tunnel. Si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Il n'y a que Marie et moi pour comprendre une chose pareille. Et je pense que c'est ce qu'explique l'estime et l'attachement qu'il y a entre les moi, tout simplement.
Raphaël, pour moi, je le porte aux anges. C'est vraiment un mec, je veux dire, un mec super. C'est pas qu'un flic super. Le mec super ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon fils. Et il m'a redonné une joie de vivre, on va dire, entre parenthèses, je sais pas si c'est une joie, mais il m'a permis de revivre d'une autre manière. Alors lui, c'est...
Jean-Pierre Murat a fait appel. Sa condamnation a été confirmée un an plus tard à Dijon et reconfirmée par la Cour de cassation.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.